réplique, football, amour et désamour avec Vincent Duluc et Robert Edecker. Dans son dernier livre, Peut-on encore aimer le football ? Le philosophe Robert Edecker écrit : Que dit-on d'un régime politique qui cadenasse l'information jusqu'à ce qu'elle devienne unidimensionnelle ? Qui fait en sorte qu'à longueur de page, d'heures d'antenne, radio et télédiffusée, le même sujet soit traité avec une constance qui finit par donner la nausée ? Que la géographie y tienne lieu d'esprit critique, que les intellectuels y soient tellement asservis qu'ils ne trouvent rien de mieux à faire que de s'épancher urbi et orbi en analyse de café des sports dont le premier supporter venu serait capable. Le jugement tombe sans appel. Il s'agit d'un régime totalitaire. Tous les quatre ans, pendant un mois, nos journaux, nos médias, nos intellectuels, à travers leur monotonie, ressemblent à ceux de l'ex-RDA de sinistre mémoire. Le foot et encore le foot. Présence totale qui ne manque pas de rappeler la presse communiste, le parti et encore le parti. Avec Robert Edecker et Vincent Duluc, grand reporter football à l'équipe, nous allons tâcher de faire mentir ce sombre diagnostic. Et je voudrais dire tout de suite, Vincent Duluc, que lecteur assidu de l'équipe, j'aime particulièrement vos articles, car justement, ils ne sont pas unidimensionnels. Mais j'aimerais que vous nous disiez par quel miracle votre passion du jeu a pu rester intacte malgré la multiplication des matchs et les dérives du sport business. Vincent Duluc.
Je crois que c'est à la fois un miracle qui m'est propre et un miracle qui est partagé. Il m'est propre parce que j'ai toujours ce goût d'aller au stade qui remonte à l'enfance et je cherche toujours le même sentiment que la première fois et j'ai toujours le même bonheur, j'allais dire juste avant dans l'escalier, en arrivant au stade.
Ah oui, il y a un bonheur de l'escalier, je suis d'accord avec vous.
Et donc je me demande toujours si je vais pas voir le plus beau match de ma vie dans deux jours ou dans une heure. Et ça c'est quelque chose qui me guide. Après j'ai toujours la passion du jeu, qui est une passion esthétique. Je pense de la même manière que la littérature ou la musique rend l'homme meilleur. Je pense même que parfois le football peut rendre l'homme meilleur. En tout cas, au moins dans la participation, on va dire, à une société un petit peu plus partagée. Et c'est là que j'arrive au miracle collectif. Je ne peux pas m'empêcher de penser que le foot aide à mieux vivre ensemble et que même si le foot est imparfait, même s'il arrive que le foot et sa culture soient effectivement totalitaires, comme le dit M. Edecker, il n'empêche que je pense que la société est meilleure grâce au foot malgré tout.
Elle est meilleure grâce au football. Alors avant que Robert Edecker vous réponde, j'ai immédiatement un contre-exemple à faire valoir. Les incidents qui ont émaillé le match récent entre deux équipes, je crois, de deuxième division qui voulaient avoir droit au barrage.
Absolument, à Bastia.
Ajaccio, Le Havre,
tout à fait.
Avec des injures absolument épouvantables, français de merde, et un match émaillé d'incidents terribles. On a vu là les supporters à l'heure, et c'était tout, sauf un exemple de vivre ensemble, mais même si tous les matchs ne conduisent pas à ce genre d'excès, il y a les fumigènes lancés, il y a cette violence quand même, inhérente aujourd'hui au football.
Votre exemple est bon, mais il peut vous être retourné. Parce que vous pensez que sans le football, il n'y aurait pas de violence en Corse. J'en doute. Je pense que la violence resterait liée à ce territoire et à sa culture.
L'humanité même.
Ou à l'humanité même. Moi, mon point de vue, juste pour rester sur l'utilité, on va dire, sociétale du football, c'est que qu'est-ce que serait notre société, ou notre pays, ou nos banlieues, ou nos villages, si le week-end, il n'y avait pas, n'y avait pas le football pour organiser la vie, pour apprendre des règles, pour vivre ensemble. Oui, on pourrait lire, on pourrait aller au cinéma, mais je pense plutôt que c'est plus une solution qu'un problème quand même globalement. Mais que quand je dis le football, c'est évidemment beaucoup plus large que ça. Il se trouve que le foot est le sport le plus universel, le plus simple à comprendre, le plus simple à jouer. On n'a même pas besoin d'un ballon, donc c'est plus facile à organiser dans la société. Mais je pourrais le dire de n'importe quel sport et de n'importe quelle activité sociale en général.
Alors pour ma part, je n'aurais pas une vision aussi progressiste, humaniste progressiste du football, bien que j'aime bien le football par ailleurs. J'aime bien même le spectacle footballistique à certains moments, mais je ne donnerai pas au football ce rôle-là qui, me semble-t-il, le dépasse, celui de rendre la société meilleure et de rendre l'humanité meilleure. Par ailleurs, je ne sais même pas, nous avons évoqué la littérature, si la littérature rendait meilleure, ou si, il y a beaucoup de contre-exemples, ou bien même si ça doit être son rôle de rendre l'homme meilleur, je crois plutôt que la littérature doit permettre à l'homme de se connaître lui-même, c'est-à-dire de plonger dans les profondeurs de l'humanité. Et il me semble que le football, alors là nous retrouvons votre parallèle littérature-football, mais je vois ça sous un angle beaucoup plus sombre et pessimiste, et il me semble que le football, en effet, permet de connaître l'homme, permet de connaître la société, d'où l'idée de fable que j'ai un petit peu développée dans ce livre. Grâce au football, nous en apprenons sur l'homme, et ce n'est pas forcément
pas une
très réjouissant.
Très voilà. Réjouissant
nous, en, dire, voilà, nous apprenons sur la société, nous apprenons aussi sur le capitalisme, le développement du capitalisme dans lequel nous nous trouvons, d'où l'idée que le football est quand même un résumé de toutes ces choses-là. Ce qui me différencie de vous, c'est que je crois que c'est plutôt un instrument de connaissance, de connaissance sombre.
Oui, mais alors, j'en reste quand même, justement, à la situation qui est la vôtre, Vincent Deluc. Vous voyez énormément de matchs. Et Van Basten, l'ancien grand joueur néerlandais, disait dans l'équipe, il y a peu de temps, que des matchs, il y en avait trop. Mais je vois un autre problème surgir, et qui fera le lien, justement, avec ce que le football nous apprend sur la société. Un problème bien analysé par Jean-Claude Michéa, dans son livre « Le plus beau but était une passe ». Il dit qu'il y a une vitrine du football moderne aujourd'hui, les très grands clubs, les clubs les plus riches. Comme ceux-ci disposent par définition des meilleurs joueurs de la planète, il n'est pas étonnant qu'ils veillent à assurer le spectacle indispensable à tout retour sur investissement. Donc, ils offrent un football offensif et parfois très agréable à regarder. C'est d'ailleurs... Il arrive que ce soit notamment le cas du PSG. Mais dès qu'on quitte, dit Jean-Claude Michéa, cet univers effectivement scintillant, on voit bien que c'est un football terne et défensif et techniquement assez pauvre qui tend à devenir la norme. En un mot, l'arrêt Bosman, et c'est là que nous en venons à la société, a logiquement conduit à créer un football à deux vitesses et Michéa dit qu'il craint de voir la naissance d'un championnat des clubs européens réservé aux plus riches, tandis qu'il y aurait des championnats locaux dont l'intérêt sportif serait de plus en plus faible. Alors, avant que vous répondiez à cette question, je voudrais que vous nous expliquiez brièvement ce qu'a été l'arrêt Bosman et ce qu'il a changé dans les mœurs du football.
Jusqu'à l'arrêt Bosman, le nombre d'étrangers était limité dans les grands clubs européens, selon les pays, c'était 2, c'était 3... avec quelques aménagements particuliers. Par exemple, les Portugais pouvaient utiliser autant de Brésiliens qu'ils voulaient. Les Italiens arrivaient à naturaliser un peu des Argentins au nom de la loi de la grand-mère. Enfin, oui. Voilà, en gros, on comprend qu'ils inventaient toujours une grand-mère qui était originaire du Frioul pour pouvoir les naturaliser. À partir de 96, la libre circulation des travailleurs s'est étendue aux footballeurs. Forcément, ça a changé complètement la face du football européen. D'autant que, parallèlement... La création de la Ligue des Champions a concentré effectivement les forces dans les meilleurs pays. Avant, en gros, c'était un pays, une équipe. Aujourd'hui, c'est un grand pays du foot, 4 équipes.
Un club fermé.
Donc effectivement, on est devenu quasiment un club fermé. Vous parlez de championnat d'Europe réservé à l'élite. C'est déjà pratiquement le cas de la Ligue des Champions, dont le palmarès a très peu d'imagination et concentre ça.
Mais à la fois, Barcelone, Bayern, Real Madrid, Manchester.
C'est à la fois un vrai problème pour l'évolution du foot. Et à la fois, esthétiquement, ça nous permet de voir des matchs absolument fantastiques. On se rend compte qu'en Ligue des Champions, quand on arrive en quart de finale, en demi-finale, en finale, il y a une espèce de concentré de talent qui fait que quand on est au stade, on a vraiment la conscience de voir le meilleur du foot et le meilleur du foot collectif. Parce que par exemple, la Coupe du Monde qui vient de commencer, elle va pas offrir le meilleur du foot collectif. Le football des nations, paradoxalement, est moins collectif que le football des clubs.
Donc vous diriez qu'un grand club battrait la meilleure des nations?
Je dirais qu'un grand club jouerait beaucoup mieux au foot que la meilleure des nations. Après, peut-être que la meilleure nation serait poussée par un espèce d'élan patriotique qui lui permettrait de compenser son infériorité sur le jeu. Oui.
Mais justement, je le disais, donc vous ne voyez pas que des grands clubs, vous ne voyez pas que des matchs de la Ligue des Champions, donc vous vous tapez aussi, excusez-moi du terme, des matchs ternes, des matchs ennuyeux, des matchs où prévaut justement le système défensif, où on joue en contre pour essayer de marquer un but. Et alors là, comment le vivez-vous?
Beaucoup.
Comment arrivez-vous à vous y intéresser?
Oui, mais alors il y a deux choses. Je me raccroche évidemment de par mon aspect professionnel et de par ma passion à l'aspect feuilletonesque. Pour moi, c'est une espèce de grande série. C'est le football saison 27 épisode 18. Donc je pense que c'est comme une jeune fille ou un jeune garçon qui regarderait les Feux de l'amour tous les après-midi, saura exactement où en sont les personnages, et j'en suis là de mon feuilleton. Mais au-delà de ça, je partage pas cette vision quasi réactionnaire ou en tout cas au moins nostalgique d'un football qui aurait été mieux avant, plus romantique et qui serait un peu trop défensif aujourd'hui. Je pense qu'autrement, au contraire, le vrai football défensif, c'était le football italien des années 60. C'était un football où l'arbitrage ne protégeait pas les joueurs. C'était un football où les règles permettaient au contraire aux équipes défensives de l'emporter. Aujourd'hui, on va dans le sens de plus de vitesse, on va dans le sens de plus de technique. Là, on rentre un petit peu dans le jeu, mais il y a plus de temps de jeu. Et aujourd'hui, il y a un esthétisme général qui n'existait pas avant ou qui n'existait que dans nos souvenirs. On peut embellir le souvenir de Pelé, qui serait le plus grand joueur de l'histoire du foot. Mais moi, c'est en partie ma génération. Pelé, j'ai dû le voir jouer 4 fois dans ma vie. Alors que Lionel Messi, je le vois jouer tous les 3 jours. Je sais exactement quel joueur il est. Je sais exactement quel miracle il peut renouveler tous les 3 jours. Pelé, pour moi, c'était une légende, mais c'était une rumeur qui arrivait jusqu'à nous, mais qu'on n'avait jamais vérifiée.
Voilà, nous soulignons le paradoxe de l'amélioration de la qualité générale du jeu dans les grands matchs, s'accompagnant de la disparition de ce que l'on appelait la glorieuse incertitude du sport, en particulier dans la Ligue des Champions ou dans la Ligue 1 qui s'appelle maintenant Conforama. Donc le sel...
On n'est pas obligé de l'appeler Conforama, oui, hein. on peut s'arrêter à Ligue 1.
Le
sel... Parce qu'autrement, la Ligue 2, il faut dire Domino's Pizza. Voilà, je veux dire, arrêtons-nous avant.
Le sel du suspense disparaît et il y a quelque chose là, quelque chose de complètement paradoxal. Meilleur est le football, plus fermé il est. Voilà. Je voulais revenir sur un autre aspect dont qu'Alain Finkielkraut a évoqué brièvement, c'est la question des travailleurs. Voilà. Peut-être l'erreur a-t-elle été de considérer les joueurs de football comme des travailleurs, des professionnels, ce qui finalement a tout faussé, des travailleurs comme les autres, comme s'il n'y avait pas une spécificité du football, et sans doute eût-il mieux valu les envisager comme des artistes, des...
Donc vous dites des artistes.
Oui, je dis des artistes en un certain sens, hein, mais le livre n'est pas négatif là-dessus, d'ailleurs. C'est-à-dire leur trouver un statut spécifique en dehors du régime général du travail. Et je crois que à partir de là, on n'aurait pas faussé à ce point-là le développement du foot. Donc c'est une certaine idéologie, l'idéologie du travail, qui s'est juridiquement imposée sur le monde du football.
Mais alors, c'est curieux,
et
parce
qui a
cette
modifié
idéologie a quelque chose de très paradoxal. On les a considérés comme des travailleurs. Et ça a peut-être expliqué l'arrêt Bosman, mais le résultat, c'est qu'avec cet arrêt, le football s'est complètement déréglé et ce sont devenus, en guise de travailleurs, des stars et plus seulement des vedettes, pour reprendre votre position, et ils ont rejoint les stars du showbiz. Donc de travailleurs à stars du showbiz, il y a quand même un saut qualitatif.
Oui.
qui a été opéré.
Juridiquement, ils sont toujours considérés comme des travailleurs.
Oui.
Ça ne cadre pas du tout avec les deux réalités. La réalité d'autrefois, où ils étaient des vedettes, et celle d'aujourd'hui, où ils sont passés dans l'univers galactique.
Il y a un parallèle qui est assez révélateur, qui montre que finalement, le foot a suivi l'évolution d'une autre société, j'allais dire quasi parallèle. Pour un livre précédent sur le parallèle entre l'émergence du Saint-Étienne des années 70 et la fin de la culture ouvrière à Saint-Étienne, j'avais calculé le rapport entre le SMIC de l'époque et le salaire des footballeurs et des grands patrons. Et en gros, au milieu des années 70, le salaire et des footballeurs et des grands patrons, de la même manière, était de 20 fois supérieur au SMIC. Et aujourd'hui, ce qui est de manière incroyable, j'ai recalculé ça, et le parallèle est exactement le même, sauf que c'est 400 fois. C'est 400 fois, mais le salaire des grands patrons et le salaire des footballeurs est encore le même.
Mais le salaire des grands footballeurs est encore supérieur à celui des grands patrons, non?
Ça dépend desquels, oui, Neymar. Ouais. Neymar probablement, mais on va dire d'un footballeur lambda de l'équipe de France.
Ah oui, c'est ça.
Oui, c'est ça.
De l'équipe de France.
Du moins, on peut l'appeler lambda.
Mais le salaire des très grandes vedettes du foot est très supérieur à celui des très grands patrons du CAC 40.
Oui, mais c'est petit cortège de personnes. Très grands joueurs. Mais alors, si on revient à l'arrêt Bosman et à ses conséquences, on a l'impression que de plus en plus, les joueurs sont des mercenaires. Ils viennent, ils vont vers le club le plus offrant, donc leur loyauté ne peut qu'être mise en doute, ce qui est d'ailleurs une grande frustration pour les supporters. C'est-à-dire que les exemples comme il n'y a pas, c'est des cas comme Paolo Maldini qui est resté à l'AC Milan ou Ryan Giggs, je crois, qui est resté au Manchester United. Bon, bah, ça se compte sur les doigts d'une main. Et quand un joueur, et on a vu ce qu'a fait subir Neymar au Paris Saint-Germain, il est arrivé accueilli par la mairie de Paris, ce qui était quand même beaucoup, avec son nom sur la Tour Eiffel, bienvenue Neymar, etc. Et il a passé son année à dire que peut-être le Paris Saint-Germain ne l'intéressait pas vraiment, peut-être allait-il être transféré au Real. Et j'imagine que s'il est resté pour l'année prochaine, c'est en posant des conditions. Ce qui fait que l'idée du club et l'idée du collectif, si vous voulez, sont elles-mêmes très ébranlées par la pratique du football, peut-être entraîné par ce malheureux arrêt Bosman.
Et c'est paradoxal. C'est paradoxal parce que jamais l'appartenance clanique au club a été aussi forte chez les supporters.
Chez les supporters.
Je trouve même que le lien est plus fort aujourd'hui avec le club qu'avec la sélection.
Oui.
Pour des raisons extrêmement, extrêmement différentes.
Oui. Puis vous, on commence à observer un phénomène inquiétant de révolte de supporters contre des joueurs qui semblent déloyaux en jouant assez mal. C'est un phénomène, il me semble, récent.
Très honnêtement, dans les années 70, à Saint-Étienne, quand un joueur sortait avec le maillot trop propre, tout le monde lui criait à la mine. C'est quelque chose qui existait déjà.
Oui. Ah oui.
C'est quelque chose qui existait déjà. Mais la nature du lien a changé, à la fois sous l'effet de l'arrêt Bosman, parce qu'il y a beaucoup plus de mobilité aujourd'hui, sous l'effet des deux fenêtres de transfert qui existent dans l'année, le mercato d'hiver, le mercato d'été, et sous l'effet aussi de l'individualisation et de la performance et du joueur. Aujourd'hui, chaque joueur est une PME. Donc effectivement, son intégration à l'équipe est pas toujours un enjeu essentiel par rapport à l'idée de la construction d'une carrière. Donc effectivement, ça rentre là-dedans. Mais en même temps, c'est compliqué parce qu'historiquement, on est passé à une espèce d'esclavagisme jusqu'à l'apparition du contrat à temps à la fin des années 60. Avant cela, les joueurs étaient liés de manière unilatérale à leur club, et ils pouvaient pas s'en défaire. Quand ils voulaient partir, en France, on les inscrivait sur une liste qu'on disait une liste de réfractaires. Et après, les clubs s'entendaient ou s'entendaient pas pour son départ, mais si le club voulait pas qu'il parte, il pouvait pas partir. Donc il a gagné quand même au prix de ce combat syndical sa liberté. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette liberté, il en fait quelque chose qui pose un problème d'identification pour les supporters, c'est vrai.
Robert Redeker.
Oui, cette révolte des supporters est quand même quelque chose qui prend de l'ampleur, et une ampleur violente parfois. J'ai vu aussi, puisque je suis toulousain, et que j'aime bien, qu'est-ce que j'aime bien dans le TFC, c'est que c'est un club qui perd souvent. Donc, le Toulouse Football Club.
Ah oui.
Il est charmant
c'est
de ce côté-là.
Bon,
et finalement, on dirait des juniors jouant dans un sport d'adulte. C'est pour ça que je l'aime bien. Mais il y a une révolte des supporters du TFC contre les joueurs, allant jusqu'à la grève de l'entrée au gradin. Vous voyez? Ça, c'est un phénomène qui, je crois, qu'est une réponse d'une certaine masse des supporters à ce côté déloyal de plus en plus fréquent. Donc d'un côté, on a en effet une sorte de tribalisation des supporters, au beau et au mauvais sens du mot tribu, et de l'autre côté, les joueurs ont l'air d'être comme les capitaux en bourse, quelque chose de nomade, dire qui passe d'un coup d'ordinateur, d'une série d'actions à une autre, d'un club à une autre, d'intérêt à d'autres, et les supporters ont beaucoup de mal à se reconnaître là-dedans. D'où l'importance de la question du maillot. Il me semble.
Oui,
L'attachement au maillot, peut-être.
Mouiller le maillot.
Oui, mouiller le maillot. Voilà. Pour le supporter, le maillot, c'est ce qu'il y a de plus important parce que c'est la peau collective. Et avec le maillot, il porte la même peau que le joueur. Et les supporters comprennent parfois mal que les joueurs soient infidèles, voire méprisants à cette peau. C'est une affaire de peau, le maillot, je crois.
Ils comprennent mal aussi. Oui. Que des joueurs soient transférés d'un club vers le club rival.
Dans la même saison, comme Mbappé.
De Monaco à Paris, Giroud de Arsenal à Chelsea, je crois. Il y a des transferts comme cela qui prouvent, pour les supporters, c'est une trahison. Et ça nous éloigne de cette très belle définition donnée par Gramsci du football, un royaume de la loyauté humaine exercé au grand jour. Vous pensez que c'est fini, ça, Robert Decker ?
Dans le sport spectacle, le football de très haut niveau, cela paraît fini. Mais cela existe dans les petits clubs, dans le sport amateur de petits clubs, où le maillot, ça veut encore dire quelque chose. Parce que finalement, les joueurs connaissent les spectateurs, tout le monde se connaît. Et le maillot, c'est le symbole, c'est cette peau collective qui rassemble tout le monde.
Je ne suis pas certain que ça soit une vertu volontaire dans le sport amateur. C'est plutôt une vertu contrainte. C'est-à-dire que c'est la vertu de l'immobilisme. Je pense que si les amateurs avaient le choix, s'ils avaient le choix d'aller dans un club plus intéressant, qui joue à un meilleur niveau, qui joue à un meilleur football, qui leur offre un meilleur travail, ils le feraient volontiers. Donc c'est les limites pour moi de la vertu. Mais je voudrais revenir à ce que vous disiez sur les supporters. Je pense que l'évolution, c'est certes l'évolution du rapport entre les joueurs et le supporter, mais c'est l'évolution aussi de la manière dont le supporter prend la parole. Très clairement, l'influence des réseaux sociaux aujourd'hui influe directement sur le comportement des tribunes. À l'époque, effectivement, la parole était collective et spontanée. Ce qui sortait des tribunes, c'était, comme je disais, à Saint-Etienne, à la mine, ou alors bougez-vous, ou alors je ne sais quoi, ou alors allez les bleus, ou alors allez les verts.
Ou siffler scandaleusement Pogba, comme l'autre jour.
Peut-être.
Il ne méritait pas de pareil sifflet.
Aujourd'hui, je trouve que la parole des supporters est parfois instrumentalisée par quelques supporters un peu plus influents que les autres sur les réseaux sociaux et qui organisent à la fois la parole des supporters dans les stades et voire éventuellement les banderoles.
Donc, instrumentalisé, dans quel sens, pourquoi faire ?
Mais instrumentalisé pour que la parole de 3 soit reprise par 10 000.
Ah oui.
Dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'effectivement, au sens de porte-parole. Et du coup, il y a beaucoup de réactions des supporters qui me paraissent, moi, aujourd'hui, un peu soupçonnables. Même si je ne nie pas que le lien entre le joueur et le supporter aujourd'hui manque un peu de sincérité parfois.
Il y a donc de l'agit-prop. C'est de l'agit-prop pour faire monter une colère, de la manipulation à travers les réseaux sociaux.
Bien sûr, absolument.
Oui, mais alors, on parlait des amateurs. Je voudrais vous lire peut-être un très court article d'un Trofidet qui était paru dans Télérama et qui a fait beaucoup de bruit, qui a reçu beaucoup d'échos. C'est à propos de la finale Les Herbiers PSG. Et voici le texte de Télérama. « Pauvre Vendéen. Prendre une fessée monumentale devant la France entière, faire un long voyage dans un vieux bus des années 1970, sans climatisation, où ça sent le jambon beurre, et devoir poser une RTT le lendemain pour s'en remettre, une raclée et des vacances forcées, ça fait beaucoup. » Alors il y a eu de nombreuses réponses sur les réseaux sociaux, et celle-ci notamment de Retailleau. « C'est typique de cet état d'esprit méprisant qui coupe la France en deux. Pour certains, il y aurait d'un côté les plouques de province qui ne comprennent rien et les élites parisiennes qui savent tout. Ce serait donc soit les paillettes, soit les mojettes. Est-ce que Télérama se rend compte à quel point il est ridicule ? Pour paraphraser Courteline, se faire traiter de plouques par des bobos branchés est une volupté de fin gourmet. Mesdames et messieurs les Parisiens, les Vendéens, vous salue bien, mais voilà, ce mépris des bobos, est-ce que ça existe encore ou est-ce que c'est résiduel?
Je pense que
Vincent Deluc,
appliqué au football, ça devient résiduel.
Voilà.
Les bobos aiment le foot, ça fait pas longtemps.
Non, ça fait pas longtemps.
Dans les années 70, il y avait clairement un mépris de classe. Tous les intellectuels méprisaient le football.
Oui,
les exemples étaient extrêmement marginaux.
Oui, on peut même verser le raisonnement en disant que les intellectuels pouvaient estimer que le football était du côté de la bourgeoisie, des exploiteurs,
mais ils auraient dû estimer le contraire. Donc, ils auraient dû estimer le contraire. Le football est quand même foncièrement le sport du peuple, organisé par la bourgeoisie, certes, mais c'est le sport auquel le peuple joue. Je trouve contradictoire, avec le recul, que par exemple tous les intellectuels de gauche, peut-être un peu plus de gauche, ça me choque un peu plus, des années 70, se soient jamais intéressés au sport le plus populaire, alors qu'ils étaient censés défendre les causes populaires. Et paradoxalement, c'est quelque chose qui est arrivé de la gauche, de la droite, de partout, après 1998, où plutôt qu'une culture du football, il y a eu une confusion qui s'est créée avec la culture de la victoire. Aujourd'hui, je trouve qu'une vraie culture du foot commence à se créer, elle existe, c'est une culture qui est parfois esthétique, il y a des gens qui... Il y a des courants dans le foot, on aime un certain type de jeu, le football de possession plutôt que le football de contre, des choses comme ça. Mais c'est extrêmement récent.
Mais je ne voudrais pas défendre une position qui n'est pas la mienne, mais essayer de comprendre un petit peu. Là, dans les années 70, régnait chez les intellectuels le marxisme ou bien l'école de Francfort, une sorte de freudo-marxisme où l'on avait toutes les analyses pour estimer que le football comme superstructure faisait partie des c'est le pain et le cirque aussi,
mais c'était vrai,
voilà, faisait partie des instruments que les classes de domination, voilà. Et ça n'est pas non plus tout à fait faux. On ne peut pas rejeter cela d'un revers de manche.
Mais disons juste, par parenthèse, qu'historiquement, le dimanche avait été organisé par l'Église et les patrons de manière équitable, la messe le matin, le football l'après-midi, et que l'ouvrier boive un peu moins le dimanche et soit en forme le lundi pour bosser. Globalement, c'était ça l'histoire.
Donc ça va dans votre sens. Il y avait quand même...
C'était le concept d'idéologie, le sens à cette époque-là du concept
Mais
d'idéologie.
Mais il y avait aussi quand même... un certain dédain de toute forme de culture populaire. Et justement, il me semble que l'article de Télérama est une sorte de vestige de ce dédain. D'ailleurs, Télérama a été obligé de présenter ses excuses. Mais je voudrais vous interroger, Robert Heidegger, puisque vous dites que ce n'était pas tout à fait faux, etc. En quoi votre critique du football se distingue de cet extrait que je viens de lire? Est-ce que vous vous inscrivez dans le même registre ou bien est-ce que votre critique est un peu différente?
Non, je n'ai rien à voir avec Télérama. Il me semble que Retailleau découvre Télérama quand il dit que Télérama n'a pas changé. Ce n'est pas une critique du football en fait. C'est se servir du football avec ses bons et ses mauvais aspects pour essayer de comprendre l'homme et le monde. Alors ça passe par une étape critique, mais je crois que sur le fond, il y a une sorte d'intérêt ou d'amour, si on peut employer ce mot, du football qui c'est présent tout au long de ce livre. Il me semble que ce livre est un livre aussi bien pour les gens qui n'aiment pas le football que pour les gens qui l'aiment et tous pourraient s'y reconnaître. Voilà. Donc je suis, si vous voulez, entre les deux.
Vous êtes entre les deux. C'est-à-dire que votre critique est implacable. Parlant de la Coupe du Monde de football, vous dites que c'est en effet une assemblée universelle, mais qu'aucun message spirituel ou intellectuel ne s'en dégage, aucun espoir pour l'humanité, aucune promesse pour la condition humaine ne sortent de cette cérémonie qui ne célèbre que le culte du spectacle et de ses idoles, celui des marques et de leurs logos, et par-dessus tout, la loi du plus fort. Et vous ajoutez, le football est la parodie mercantile et vide, pitoyable et dérisoire, faite de toc et de trucage, maçonnée d'argent et de publicité, de marketing et de communication, couverte de kitsch, de l'idéal catholique, la réunion dans une église universelle, la communion autour d'un calice, la liturgie autour de personnages, hissés à une forme de sacré.
Je crois que tous ceux qui aiment le foot peuvent se reconnaître dans cette critique et se dire que finalement cette critique décrit ce que le foot est devenu.
Alors c'est-à-dire, comment peuvent-ils continuer à l'aimer ? Parce que vous dites ça, mais d'un autre côté, vous êtes tellement au courant. Je vous parlais de ce moment où Fekir a provoqué les Stéphanois, justement, en enlevant son maillot et en faisant tournoyer autour de sa tête. Vous parlez du transfert de Mbappé, vous parlez de Falcao, de Di Maria. C'est-à-dire, on voit que quelqu'un qui s'y connaît et qui est obligé de renouveler même ses connaissances jour après jour. Ce qui fait bien, ça veut dire que vous consacrez du temps au football. Vous devez regarder des matchs. Alors, vous êtes un homme clivé, Robert Hedecker ?
Non, pas du tout. C'est pas un clivage. C'est il y a deux temps à autre. Il faut une attitude de surplomb qui permette de regarder l'ensemble et à d'autres moments, il faut être dedans. Enfin, comme disait Merleau-Ponty, au milieu du monde, au milieu des choses, donc au milieu de là où ça se passe, avec de l'empathie. Il y a j'ai de l'empathie pour le football, pour les spectateurs, pour les supporters, tout en sachant très bien les limites de cela. Mais à d'autres moments, il faut quand même faire un pas à côté, un pas en arrière, ou aller sur Sirius et regarder du point de vue du général.
Et vous faites de temps en temps ce pas en arrière, ou une question plus précise, jusqu'à quel point vous donnez-vous le droit d'être critique sur certains agissements, sur certaines pratiques, alors même que vous êtes journaliste à l'Équipe, un journal enfin qui célèbre le football?
Oui, qui célèbre le football, mais la seule manière de maintenir sa passion, c'est d'avoir un regard critique sur elle. Autrement, effectivement, ça n'a pas de sens. Vous parliez tout à l'heure des incidents en Corse au moment du match Bastia-Le Havre. Et j'ai commis un éditorial assez tranchant sur le sujet. Et forcément, c'est le regard critique qui est indispensable. On pense que, sous prétexte qu'on est journaliste de sport, qu'on défend cette espèce de chapelle à tout prix, à tout craint, mais c'est pas le cas. Simplement, effectivement, j'ai pas la même vision que Robert Hedecker de la Coupe du Monde. Pour moi, au contraire, c'est une espèce de trêve. Alors, c'est peut-être une illusion. Mais cette illusion, tous les 4 ans, il me semble qu'elle fait plus de bien que de mal. J'aime ce moment-là, j'aime ce partage, j'aime l'idée qu'une fois tous les 4 ans, la moitié de la planète regarde la même chose au même moment. Et ça, je trouve ça assez fascinant.
Et même en Russie, parce que pour Vladimir Poutine, le sport est un instrument de politique. Il est allé trop loin d'ailleurs avec le dopage organisé. On l'a vu dans des scandales récents. Mais le football, ça représente vraiment quelque chose dans sa vision géopolitique du monde. Donc là, il y a peut-être un problème, une difficulté.
Ah, mais Vincent Deluc. Le problème est immense et il est historiquement immense. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, les institutions du sport mondial, que ça soit le Comité international olympique ou la FIFA, la fédération internationale qui gère le football, ont été beaucoup trop complaisants avec les dictatures. Et la Coupe du Monde de Mussolini en 1934, c'est quelque chose de vraiment parti. C'était ou les Jeux Olympiques de 1936 ou la Coupe du Monde de 78
en Argentine,
chez Videla en Argentine. Oui. Voilà, il y a toujours une complaisance absolument sidérante. Les jeux déjà chez Poutine, les Jeux d'hiver à Sotchi, c'était la même chose. Donc effectivement, sur ce sujet-là, j'ai pas beaucoup d'illusions. Après, est-ce que le football devait pas une fois, en bientôt 100 ans de Coupe du Monde, aller dans ce grand pays de football qu'est la Russie? Voilà, c'est une autre question. Mais je pense qu'on reposera la même question dans 4 ans quand nous irons au Qatar.
Sûrement. D'abord, je crois qu'on se trompe un peu sur l'universalité. Du moins, cette fois-ci. Parce qu'il y a une Coupe du Monde sans la moitié de l'humanité. Sans la Chine, sans l'Inde, sans les États-Unis.
Oui, mais cette moitié,
sans le Canada,
la regarde.
Oui. Mais elle n'est pas partie prenante. Elle regarde presque de dehors. Donc l'universalité est contestable. L'universalité. Là.
Juste après la Coupe du Monde 98, sur l'universalité, je voudrais juste dire qu'il y avait un petit documentaire, je crois, qui était passé sur Arte, qui était absolument fascinant, qui durait 1 heure. Et c'était la finale de la Coupe du Monde 98, vécue dans 10 endroits de la planète. Il y avait un monastère tibétain, il y avait des pêcheurs esquimaux, et tout le monde regardait la même chose au même temps. Pour moi, c'est aussi ça la beauté du football et de la Coupe du Monde. Je suis pas sûr que ce football-là, que ce partage-là, fasse beaucoup de mal à la société humaine de manière générale.
Voilà, c'est l'idée de trêve que je voulais contester un petit peu. Peut-être y a-t-il trêve politique Je ne suis pas sûr du tout, mais bon, en tout cas, il n'y a pas trêve de commercial, pas trêve de matraquage commercial. C'est même le contraire qui arrive. Donc, alors, est-ce que cela c'est plus beau? Je n'en suis pas sûr du tout, parce que le sport est finalement, en fait, le football est dans ce cas le support de deux choses très différentes de lui. Donc, premièrement, tout le matraquage commercial qui accompagne le football, la propagande pour l'argent sans fin qui accompagne le football, et puis...
Et ça, c'est pas forcément la Coupe du Monde.
Oui, mais à la Coupe du Monde, ça s'est exalté encore plus. Et le troisième et dernier point, ce sont les valeurs ou anti-valeurs que le discours sur la Coupe du Monde va promouvoir, que Monsieur Macron a essayé de récupérer une fois de plus. C'est-à-dire, ce sont des valeurs ou anti-valeurs qui donnent une certaine image de la vie et une certaine image de l'homme comme compétition permanente pour essayer de passer devant l'autre. Ça c'est à questionner, cette chose-là.
Dans votre livre, Robert Badecker, que les valeurs promues par les gens du football rejoignent celles de la mainmise de l'économie sur l'ensemble des autres activités humaines. Ce sont les valeurs de la soumission généralisée à l'économie. L'économie doit tout soumettre à son empire. Ces valeurs sont commises à manifester leur impérialisme sur toutes les autres valeurs. Voilà, c'est ça le football aujourd'hui.
C'est donc deux choses. C'est d'une part la soumission du politique au football ou au sport en général, chose que l'on voit de plus en plus fréquemment, et l'articulation de ce doublé au règne planétaire de l'économie.
Alors justement, Emmanuel Macron manifeste un grand intérêt pour le football. J'en donnerai trois exemples. D'abord des tweets. Il a tweeté, je crois, Emmanuel Macron, pour commenter l'attitude d'Adrien Rabiot. Celui-ci n'a pas supporté son statut de suppléant. Et d'ailleurs, vous l'aviez prévu dans votre livre « Éloge des coiffeurs », Vincent Duluc, puisque vous dites, vous parlez des coupes de la Coupe du Monde 2018, et vous dites qu'Adrien Rabiot est le cinquième choix de Didier Deschamps, et compte tenu de son statut médiatique et sportif au PSG, la question se pose de savoir comment un joueur comme lui pourrait supporter de passer un mois dans l'ombre. Là, il aurait été simplement, c'était le cas où il aurait été parmi les 23. Mais là, il n'était même pas parmi les 23, et évidemment, il n'a pas supporté. Et Emmanuel Macron est allé de son commentaire. Il a commenté aussi la décision de Zinedine Zidane d'abandonner au sommet de la gloire le poste d'entraîneur au Real Madrid, et il est allé à Clairefontaine encourager l'équipe de France et de dire qu'il voulait voir ramener la coupe à la maison, parce que si on joue, c'est pour gagner. Et le même Emmanuel Macron, si je ne me trompe pas, n'a pas eu un commentaire pour la mort de Philippe Roth. C'est pas un auteur français, mais enfin, nous parlons sans cesse de mondialisation, c'est un des grands auteurs de la littérature mondiale, au sens qu'avant la mondialisation, Goethe, avec sa Weltliteratur, avait donné à ce terme. Donc on voit vraiment, effectivement, une proximité, promiscuité des grands dirigeants politiques avec le sport, avec le football, qui elle-même mérite commentaire, Vincent Duluc.
Là, effectivement, je pense qu'il y a une connivence quasi générationnelle, parce que c'est quand même c'est la première fois qu'un président a presque l'âge des joueurs.
J'exagère un peu. Surtout que l'équipe de France est très jeune.
C'est vrai. Mais effectivement, mais c'est pas la première fois que les présidents ont envie d'accompagner le mouvement, ou pas d'ailleurs. Parce que ce qui est très révélateur, c'est qu'en 2010, avant la catastrophe sportive et morale, même la faillite morale de Nice, quand les joueurs avaient fait la grève et n'avaient pas voulu défendre du bus, Nicolas Sarkozy avait tellement senti le mouvement qu'il avait refusé de s'associer à l'équipe de France avant et qu'il avait envoyé Roselyne Bachelot et Ramayad pour prendre les coups à sa place. Donc voilà, il y a vraiment toujours une volonté de calcul. Donc là, ce qui est presque rassurant pour l'équipe de France, c'est qu'Emmanuel Macron fait les calculs d'une éventuelle réussite à laquelle il pourrait s'accrocher.
Oui,
in fine.
Là, je voulais faire deux remarques. Moi, je crois que il y a une grande différence de style entre Sarkozy et Macron dans l'approche du football. Je crois que Sarkozy, c'était par rapport à ça, un président ancien style. Tandis que Macron, il y a une, vous avez dit connivence générationnelle, je crois qu'il y a une connivence quasi générationnelle au sens d'idéologique, c'est-à-dire l'idéologie de la start-up. Je crois que c'est ça. Et donc c'est beaucoup plus profond que le rapport de Sarkozy au football.
C'est étonnant que vous disiez ça parce que Sarkozy aime tellement le football qu'il ne rate pas un match du PSG.
Oui, mais
même dans les périodes de tourmente judiciaire, il n'a pas du tout la même vision du monde. Du PSG. Oui. Et on a l'impression d'ailleurs que il aurait peut-être envie d'être le prochain président du PSG après président de la République française.
C'est à l'ancienne. Et voilà, je voulais faire une deuxième remarque là-dessus, plus politique ou philosophico-politique, c'est que Macron se comporte un anti-Machiavel de ce point de vue-là. Machiavel disait que le prince, alors on va dire le politique, doit faire semblant d'avoir la religion du peuple, mais que surtout il ne doit pas en suivre les préceptes les plus moraux, mais le peuple doit être persuadé que le prince pratique comme lui, à la fois comme lui. Voilà. Et alors, avec Macron, je crois que nous ne sommes pas dans le semblant. Il considère, en effet, le football comme religion populaire, peut-être religion populaire qui réunifiera tout le monde, mais en même temps, il adhère à cela.
Il adhère aux valeurs du football. Dont vous parliez.
Voilà, donc il est anti-machiavélique quand il... Alors, on peut parler de récupération, mais c'est pas du tout une récupération machiavélique.
D'un autre côté, je voudrais dire moi pourquoi j'ai toujours aimé le football. C'est mon père qui m'y a initié. Il m'emmenait voir les matchs du Racing à l'époque parce que je ne suis plus tout jeune au Parc des Princes et depuis lors j'ai toujours aimé ça. Et même dans les années 70, 80, quand le football n'était pas à la mode chez les intellectuels, je maintenais ce goût même si j'allais de moins en moins au match, et je continue à aimer le football et à lire l'équipe et en discuter avec mon fils ou avec certains amis parce que, si vous voulez, c'est un moment inouï où on se passionne pour des choses dont on sait par ailleurs qu'elles n'ont pas vraiment d'importance. C'est-à-dire, je regardais les résultats du Giro, par exemple, et j'étais content de la performance de Thibaut Pinot, j'étais un peu triste de le voir s'effondrer, mais voilà, mais ça n'avait pas d'importance, alors que quand je lis la presse quotidienne, je souffre soit de l'information elle-même, soit de la manière dont elle est présentée. Donc, j'ai des indignations qui sont réelles, qui sont douloureuses. Là, non. Mais alors, en revanche, justement, et c'est là que les supporters me posent un problème, parce que pour eux, ça a énormément d'importance. C'est-à-dire, je vais regarder éventuellement la Coupe du Monde, ben, je serais content que la France aille le plus loin possible, mais j'ai peur du véritable déferlement qui risque d'avoir lieu si la France ramène la Coupe à la maison. Donc, est-ce qu'on est plus capable, justement, de cette passion pour des choses qui n'ont pas vraiment d'importance, Vincent Duluc?
Je pense qu'il ne faut pas classer vis-à-vis du foot les choses qui ont de l'importance ou pas de l'importance. En fait, ce qui compte, c'est la distance que vous avez vis-à-vis des choses. Alors, forcément, elles n'ont pas d'importance parce que vous les maintenez à distance. Dans le cas des supporters, c'est complètement différent. Il y a le sentiment d'une appartenance clanique qui participe à les définir et qui fait qu'effectivement que le destin de leur équipe est lié à leur destin à eux. C'est l'écrivain Nick Hornby dans Fever Pitch, dans Carton Jaune, qui disait est-ce que la saison d'Arsenal est pourrie parce que ma vie est pourrie, est-ce que c'est ma vie qui est pourrie parce que la saison d'Arsenal est pourrie.
Là, c'est l'identité et il disait aussi et la que reconnaissance qui, c'est l'identité et la reconnaissance qui sont en jeu pour les supporters, c'est ça.
Bien sûr, et de la même manière, il disait d'ailleurs aussi que l'essence de la vie de supporter, c'était la déception. Et il faut comprendre effectivement que l'essence de la vie de supporter est la déception pour se rendre compte que les petits bonheurs ou les grands bonheurs de la vie de supporter, c'est quelque chose d'effectivement à part. Et c'est une culture partagée dans une ville. Quand vous avez une ville coupée en deux, comme à Manchester, entre Manchester United et Manchester City, la victoire de l'un sur l'autre a une importance qui dépasse l'heure à laquelle elle se passe. Parce que c'est un sujet de conversation dans les villes pendant toute l'année, et c'est un sujet de division dans la ville pendant toute l'année. C'est quelque chose de plus profond que ça.
Vous dites la distance, c'est vrai. Mais je suis moi-même une sorte de supporter. C'est en dépit de tout ce que je pense du Qatar Football Club, j'ai eu l'occasion de le dire, je me sens supporter du PSG.
Mais est-ce que le lendemain d'une défaite, vous êtes encore malheureux?
Mais non!
Mais oui, donc vous n'êtes pas un vrai supporter.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand le PSG joue bien, je suis content. Oui. Parce que j'ai quand même aussi une passion du beau jeu avant toute chose. Mais quand il marque un but, je suis sur mon canapé, je vais il m'arrive d'aller au match, mais pas très souvent, mais je saute en l'air, je saute en l'air. Et quand ils sont battus, je fais la gueule, je suis pas content, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça ne peut pas durer, justement. Ça s'envole. C'est ça que j'appelle sans importance. C'est merveilleux. Une passion, mais une passion superficielle. Et chez les supporters, les vrais supporters, en effet, ce n'est pas superficiel. Quelque chose de leur vie est engagé, et ça, j'ai du mal à le comprendre.
Mais c'est parce que vous n'engagez pas la même portion de votre vie, et la même partie de votre vie, parce que vous avez des choses à côté de votre vie qui font que dans votre classement, le football arrive 17e dans la vie des supporters, parfois. Et c'est pas du tout quelque chose d'intellectuel, quoi que ce soit, mais effectivement, le football arrive beaucoup plus haut, c'est quelque chose de beaucoup plus important.
Là, c'est quelque chose de très important. Voilà. Dans des masses populaires, ou ceux qu'on va appeler la France périphérique, ou des quartiers de Marseille, les gens n'ont que ça. Ils n'ont que ça pour jouer leur identité par procuration lorsqu'il y a des...
Oui, mais alors juste, je viens de dire quelque chose que je regrette. Je voudrais juste vous couper, pardon de vous couper.
Lisez.
Parce que je regrette de laisser penser qu'on est supporter d'une équipe parce qu'on n'a que ça dans la vie. Et c'est pas du tout ce que je veux dire, et c'est pas du tout ce que je pense.
Donc vous n'êtes pas d'accord.
Voilà.
Hein. Je veux dire, je pense pas ça du tout. Vous marquez votre désaccord. Voilà. Très bien.
Robert Edinger. Non, on peut être aussi supporter d'une équipe, d'une toute autre façon, en ayant beaucoup d'autres choses dans la vie. Alors je vais donner un exemple. Moi j'aime bien certaines équipes, et lorsque elles jouent mal, des équipes auxquelles je suis attaché, et je suis déçu si elles gagnent en ayant mal joué. Et lorsque je les vois mal jouer, je me dis, mais pourvu qu'ils prennent la raclée. Voilà.
Oui, mais alors... ça, c'est le dépit amoureux. Je peux comprendre le dépit amoureux. Mais le dépit amoureux est aussi un mécanisme de supporter, qui enlève un peu qui enlève un raisonnement,
Oui.
Effectivement, voilà.
D'ailleurs, moi, j'ai ressenti une déception aussi quand la France s'est qualifiée pour la Coupe du Monde de 2010.
Au moment de la main
de Thierry Henry. Et quand j'ai vu Romain Domenech sauter en l'air, j'ai eu honte. Je me suis dit, c'est pas comme ça que je veux voir la France se qualifier.
Oui, mais ça, c'est une culture française. Dans les pays latins, tout le monde aurait glorifié celui qui avait commis cet acte de grivellerie.
En revanche, je voudrais parler d'une déception qui m'est restée fichée au cœur et qui est très ancienne. Et là, je me sens intégralement supporter. D'ailleurs, vous en reparlez dans votre livre. Et j'ai à nouveau la chair de poule. 1982, la demi-finale de Séville. J'ai regardé ça à la télévision. Et j'ai vu la passe lumineuse de Platini à Battiston. J'ai vu que Battiston allait droit au but. J'ai vu Schumacher, le Gaulle, le gardien allemand, lui foncer dessus. Lui, véritablement, lui foncer dessus. Et il est tombé, il a été sur une civière, il a perdu connaissance, il a perdu deux ou trois dents. Et vous racontez, Vincent Duluc, que Monsieur Corvère, l'arbitre hollandais, en effet, n'a pas sifflé pénalty, n'a pas sanctionné Schumacher, pas même d'un carton jaune, et que dans la nuit même, dans un coin de l'aéroport de Séville, il discutait en riant avec les joueurs allemands, sous les yeux de l'équipe de France. Tigana a failli aller lui mettre un bourre-pif. Il a été retenu par les autres joueurs. Et vous me racontez ça, et je suis
et
encore...
Tout revient.
Et le lendemain matin, je me souviens, le lendemain du match, je suis allé dans un café, et on ne parlait que de ça. Les gens étaient livides, absolument livides. Et tout revient. Et j'ai envie de savoir, parce que ma soif de vengeance n'a pas été assouvie, qu'est-il arrivé à Schumacher après? Qu'est-il arrivé à Monsieur Corvère? Ont-ils payé pour cette double injustice?
Absolument pas. Ils n'ont absolument pas payé, quoique Harald Schumacher avait proposé de payer pour les nouvelles dents de Patrick Battiston, un cynisme absolument formidable.
Mais il n'a jamais regretté son geste.
Il a raconté dans sa biographie que les Allemands à l'époque prenaient un peu trop de vitamines et qu'il était dans un état second probablement à cette époque. Mais je voudrais juste finir sur la nuit de Séville pour dire que là on est quand même au cœur d'une culture populaire, d'une culture partagée. Quand vous évoquez Séville dans une soirée, vous n'avez pas besoin de raconter que c'était une demi-finale de Coupe du Monde, qu'il y avait la France, qu'il y avait l'Allemagne. Vous dites Séville et tout le monde comprend la même chose.
Alors qu'est-ce que vous avez ce souvenir-là aussi?
J'ai ce souvenir-là. Je crois que c'est l'un des plus beaux matchs de l'histoire du football.
En plus. Non, moi voilà. J'ai oublié le match.
C'est l'un des plus beaux. Et
je ne pense qu'à l'action.
Et ce côté dramatique avec l'injustice, fait partie de la beauté de ce match-là. L'injustice, je crois que si l'on veut trop technocratiser le football, en mettant un arbitrage vidéo glacial, etc., on va enlever la dimension d'injustice possible qui fait partie de la passion que l'on peut avoir pour ce sport. Voilà. En effet, c'est injuste et tant mieux. Sinon, si on enlève l'injustice, on a un sport glacé. C'est même pas la peine de jouer. On aura le résultat à l'avance.
Ah oui. Encore une fois, vous revenez sur cette passion pour le football, que vous ne ménagez pas par ailleurs, le sport-spectacle. Mais cette passion, elle s'exprime aussi, Robert Edecker, et nous en aurons bientôt terminé, dans une sorte de comparaison que vous faites entre les grands footballeurs et Jean Kelevitch. François Georges, 10 ans de Jean Kelevitch, ces variations étaient si concertantes et déconcertantes, nous nous retrouvions soudain, nous ne savions où, dans l'inattendu. Et vous dites que les grands footballeurs, eh bien, c'est un peu la même chose. Ils ont la vertu de nous conduire dans l'inattendu.
Oui, même pour le pire, même pour le coup de tête de Zidane lors d'une finale contre l'Italie, c'était complètement inattendu. Ce joueur merveilleux nous a conduit dans un inattendu tout à fait qui ne correspond pas du tout à ce que l'on sait de lui. Mais c'est toujours le cas. Il y a 5 minutes, je critiquais le risque de d'uniformisation du football comme ça par la technique. Mais là où le football est beau, c'est lorsque les très grands joueurs font des actions auxquelles on ne s'attendait pas du tout et l'on rêve un peu à ce moment-là. S'il y a du rêve dans le football, c'est uniquement à ce moment-là.
En fait, vous dites beaucoup mieux que moi pourquoi on peut encore aimer le football. C'est magnifique.
Il y a quand même des moments de rêve grâce aux très grands joueurs. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette conversation, Robert Edecker et Vincent Duluc. Alors, je voudrais rappeler les titres de vos livres. Robert Edecker, Peut-on encore aimer le football? C'est un essai publié aux éditions du Rocher. Et Vincent Duluc, L'éloge des coiffeurs, l'équipe de France vue du banc, aux éditions Marabout. Mais vous avez aussi publié cette année, je crois, un roman chez Stock.
Absolument, Cornelia, sur l'histoire de Cornelia Ender, la championne olympique de la RDA de natation des années 70.
Ah, c'est toujours le sport, mais c'est
toujours
un
sport, voilà.
Très bien. Et j'ai cité également Jean-Claude Michéa, Le plus beau but était une passe, aux éditions Climat. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site réplique-franceculture.fr où l'émission est téléchargeable 1 an et écoutable à vie. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Lire Maurras aujourd'hui ». Mes invités seront Michel de Gégère et Martin Motte. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Philippe Thibault. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.